de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Auditrice, auditeur d'FM Plus 91 FM à Montpellier, vous êtes sur la nouvelle émission de Michel Théron pour cette rentrée 2018-2019. Et avec lui, avec Michel Théron, avec l'auteur lui-même, nous continuons à feuilleter méthodiquement son livre « Sur les chemins de la sagesse » aux éditions BOD. Alors nous avons vu dans une première émission la semaine dernière les points forts du premier chapitre, la sagesse des nations, notamment comment les préceptes de sagesse, les proverbes se contredisent et comment on peut remédier à cela. À nous de les contextualiser, nous dit Michel Théron. Eh bien, on se retrouve Michel, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Alors, nous commençons le deuxième chapitre, les projections. Un chapitre beaucoup plus fourni que le premier.
Plus long, beaucoup plus long, oui. J'ai fait exprès de commencer mon livre, le corps même du livre, par ce mot de projection, hein, parce que ça me semble une notion essentielle, hein, et surtout l'ambivalence des projections, alors que la plupart des livres de sagesse critiquent radicalement les projections. Moi, je ne suis pas de cet avis, j'ai une approche beaucoup plus modeste et beaucoup plus ouverte.
Mais toutefois, vous nous mettez en garde.
Voilà, alors, donc, je suis parti de la phrase d'Épictète. Épictète, c'est un sage stoïcien, grec, antique, qui dit « Ce qui tourmente les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils s'en font. » Tenez, je me fais plaisir, je le dis en grec. Hein, « Tarasei tous anthropous, tourmente les hommes, ou ta pragmata, non pas les choses, pragmata ou pragmatine, etc. Alla ta perioton dogmata. » Dogma, qui a donné dogme, etc., mais les idées que l'on s'en fait. Hein. Donc, les choses elles-mêmes nous semblent justifier nos peurs, mais en fait, nos peurs sont des projections que nous faisons sur les choses. Alors, ces idées, ces fausses images sont des fantasmes, elles ont leur source dans notre imagination. Est-ce que vous aimez rêver, imaginer ?
Rêver, oui, mais projeter, en lisant votre livre, je comprends que ça peut affecter mes perceptions.
Absolument, absolument. Hein. A priori, la projection est donc condamnable. Hein. Par exemple, on nous dit, voilà l'exemple que l'on voit dans un livre de sagesse. Dans le coin sombre d'une pièce, nous voyons un serpent. Puis nous nous approchons et il s'avère que ce serpent n'est qu'une corde enroulée. Hein. Donc notre perception, vous avez raison, on parlait de perception, a été altérée. Nous avons projeté sur ce que nous avons vu une image qui est suscitée par notre propre peur. Vous voyez, hein. Alors toutes ces peurs viennent souvent du plus profond de notre passé, parce que nous avons été enfants avant d'être hommes. L'enfant, disait Wordsworth, un poète romantique anglais, c'est le père de l'homme, l'enfant est le père de l'homme. Hein. Bon, puis il y a aussi l'éducation que nous avons reçue, nous a inculqué des peurs. Le dressage dont nous avons été l'objet, par nos parents, par nos maîtres, nos professeurs, etc., tout cela a modelé notre esprit. Hein. Alors la sagesse serait, a priori, de faire le ménage dans nos projections, de distinguer le danger imaginaire du danger réel.
Hein. Oui, parce qu'en effet, vous semblez dire que la projection, c'est souvent, on va peut-être dire le contraire tout à l'heure, vu que vous aimez les contradictions, c'est souvent apporter quelque chose de négatif, quelque chose qui va nous empêcher d'agir, quelque chose qui va alourdir l'affaire, qui va amplifier un phénomène qui, de près, finalement, comme vous l'avez montré dans votre exemple, n'est pas si grave.
Voilà, de près, voyons de près. Eh bien, j'ai cité la phrase de la fable de La Fontaine, qui est tirée du livre 4, fable numéro 10, qui s'appelle le chameau et les bâtons flottants. Alors, dans ce livre, vous l'avez noté, Guylaine, à la fin, il y a toute une partie d'anthologie poétique.
Ah, c'est une richesse, d'ailleurs, par rapport à la première édition.
Voilà, par rapport à la première édition. Et la suivante, qui va sortir d'ici un mois, augmentera encore cette partie d'anthologie.
J'ai très intéressant. intéressant d'ailleurs ce
voilà,
choix.
Voilà, j'ai décidé en contrepoint de ce que je dis abstraitement, c'est-à-dire professoralement, j'y suis habitué, etc., de faire non plus penser le lecteur, mais de lui faire sentir les choses. Hein, et on sent les choses par la poésie. Alors, j'ai cité beaucoup de fables de La Fontaine, dont celle-ci, Le chameau et les bâtons flottants. La Fontaine est un grand sage aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, je la lis, cette fable, elle est courte. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. À l'époque, chameau et dromadaire, c'était pareil. Hein, bon. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue, c'est-à-dire à la continue, à la longue. Hein. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet, c'est-à-dire on avait posté des gens pour faire le guet, hein, qui voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. Alors, la moralité de La Fontaine est la suivante. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Oui. Vous voyez, hein? Donc, les choses, justement, nous font peur ou nous impressionnent quand elles sont éloignées. Hein? Bon, il y a une espèce d'aura... tenez, prenez le président de la République. Il est entre ses motards, sa garde républicaine, bon, tout le décorum présidentiel, bon. Mais supposez qu'on le trouve, par exemple, en pyjama, hein, comme cela a été fait par le président Paul Deschanel, qui était tombé du train présidentiel, justement, et qui... il avait pris un somnifère, je crois. Il s'est trompé de porte, il est tombé sur la voie, et ensuite, il a fait un ou deux quelques kilomètres sur la voie en pyjama avant de trouver la maison du garde-barrière. Hein, et... le garde-barrière était étonné, a dit « Qui êtes-vous ? Je suis le président de la République », dit Paul Deschanel. Et la femme du garde-barrière, paraît-il, en le déshabillant, « Ah, c'est possible, il a les pieds propres », vous voyez, voilà, voilà.
C'est un signe.
C'est possible. Alors, vous voyez,
donc... Elle s'était approchée.
Voilà, exactement, elle s'était approchée. Hein. Donc, de près, si vous voulez, ce n'est pas grand-chose. L'aura, ce qu'on appelle l'aura, aura, A-U-R-E-A, c'est un mot latin qui veut dire l'auréole, le prestige, etc., tombe, effectivement, quand nous voyons les choses de près. Donc là, la sagesse, c'est de détruire les projections, ou de les relativiser. Hein.
Bon. Parce que finalement, c'est plutôt apaisant de détruire ces projections. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de les détruire.
Ben, écoutez, d'abord, il faut voir, j'ai parlé déjà de la méditation de pleine conscience, mindfulness, la concentration sur l'instant, c'est la destruction de ce qu'on appelle le mental. Alors, le mental, c'est quoi? C'est, si vous voulez, toutes ces pensées qui, dès que nous levons, hein, le matin, hein, nous assaillent comme des milliers de petites souris qui nous grignotent la cervelle, si vous voulez. On se dit le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On est toujours dans le faire. Et jamais dans l'être, hein. Et voilà, et alors on pense à ceci, on pense à cela. En Orient, on dit très bien, si ton mental vit, tu meurs, et si ton mental meurt, tu vis. Hein. Voilà, c'est-à-dire, si on détruit effectivement ces petites souris-là, ou ces pensées qui nous assiègent, hein, eh bien, à ce moment-là, on pourra se concentrer sur le présent pur, et on ne sera pas parasité. Je crois que...
On se sentira mieux.
On se sentira mieux, oui. Nos pensées, on les suit comme ça. Mes pensées, ce sont mes catins, disait Diderot, c'est-à-dire ces femmes, ces prostituées que l'on suit dans la rue, voilà. Hein. Nous ne nous appartenons pas vraiment quand nous suivons des pensées. Hein. Ce sont comme des singes qui vont de branche en branche dans un arbre, hein, voilà. Ils se balancent de branche. Et finalement, elles nous parasitent, hein, et elles nous empêchent d'habiter le hic et nous, comme on dit, l'ici et maintenant. Hein. Alors ce qu'il faudrait faire, vous voyez Guylaine, c'est considérer les pensées comme quand on voit un nuage dans le ciel. Le nuage bouge, on suit le mouvement du nuage, hein. Mais il faut pas penser, pas se dire, attention, demain il va pleuvoir, vous voyez, s'il y a ce nuage. Non, non, non. Suivre le mouvement du nuage de façon définalisée, en quelque sorte. Hein. Donc, à ce moment-là, on ne fait plus de projection sur le nuage, hein, mais on le voit tel qu'il est. Hein. Et souvent, c'est proche de la poésie, c'est ça, la pure présence. Hein.
Alors, vous nous dites aussi que pour nous aider à ne pas projeter comme ça des chimères sur ce qu'on voit, il faut respirer.
Voilà. Alors, c'est toujours ce que dit la méditation de pleine conscience. Hein. Par exemple, Christophe André, aujourd'hui, qui en parle beaucoup dans un très beau livre, hein, Méditer jour après jour. Donc, il faut justement respirer, se concentrer, faire le vide en soi, se concentrer sur sa respiration. Parce que, vous voyez, chez nous, on est cartésien. Descartes nous dit « je pense donc je suis ». Et je crois que dans la première émission, nous avions renversé la formule, nous avions dit « je pense donc je ne suis pas ». Hein. Donc, et alors, la méditation de pleine conscience nous dit « je ne suis pas ce que je pense hein. ». Mm-hmm. Donc, ce que je pense est autre chose que moi. Mais le moi profond, hein, il est
mon
autre.
Être, vous diriez, mon être
profond. Hein. Celui qui n'est pas dans le faire, dans la projection, dans l'anticipation, ou dans la rumination des souvenirs, etc. Eh bien, je ne suis pas ce que je pense. Je pense qu'on peut prendre le terme je ne suis pas, le suis, hein, dans les deux sens, au sens être et au sens suivre. Hein, voilà. Il ne faut pas suivre, justement, ce que l'on pense. Alors, je trouve que cette technique de méditation, la respiration, le yoga dit la même chose, sont des choses très intéressantes. Mais alors, je redis ce que j'ai dit en commençant lors de la semaine dernière, c'est que je ne pense pas que cela épuise tout. Parce que, et nous y viendrons, peut-être cette émission ou la suivante, il y a quand même parfois des choses séduisantes dans les projections. Mmh. Vous voyez, hein, alors Guylaine, non, effectivement on peut froncer les sourcils et dire mais comment ça se fait ? Mais oui, mais ça dépend, ça dépend.
Est-ce que vous êtes en train d'expliquer cette phrase que je m'étais notée en me disant « je lui poserai la question sur le sens ». Vous nous dites qu'aussi capitale que soit cette voix, je doute qu'elle épuise au moins chez nous ce que peut être la sagesse dans la vie.
Ah voilà, je dis au moins chez nous.
Au moins chez nous.
Parce que ce retrait, ce vide intérieur, est-il possible ? Bon, dans certaines techniques, dans le zen, c'est ce qu'il faut trouver, c'est le caractère mu, M-U, hein, voilà, le vide. Hein. Vous savez, sur la tombe d'Ozu, au Japon, hein, il y a cet idéogramme japonais, mu, le vide. Hein. Bon, est-ce que c'est vraiment importable chez nous ? Je n'en suis pas sûr. Mmh. On peut faire un effort, hein, on peut avoir l'avantage qu'il y a à se désencombrer de choses inutiles, mais je dis, au moins chez nous, bon, l'imagination et ses prestiges a un certain poids, quand même. Hein. Mmh. Bon, vous voyez, prenez Madame Bovary, elle rêve, elle est dans ses romans d'amour, ses romances, comme on dirait aujourd'hui. Mais à côté de ça, vous avez Monsieur Homais, le pharmacien positiviste, matérialiste, qui ne pense qu'à sa nourriture, etc. Mmh. À côté de Don Quichotte, le rêveur, vous avez Sancho Panza, dont le propos, c'est où est-ce que je coucherai ce soir, qu'est-ce que je mangerai à midi, etc. Donc, vous voyez, parfois, ce qui n'a pas de sens chez nous a plus de sens que ce qu'il y en a. Enfin, c'est compliqué. Mais je veux dire, les deux choses sont vraies. Il y a des cas où il faut lutter contre les projections. Je parlais des costumes, les grandeurs d'établissement, comme dit Pascal à propos du président de la République. Hein. Il est certain que l'uniforme du gendarme, la robe du juge, la blouse blanche du médecin inspire, comme on dit, le respect, impose l'obéissance. Hein, donc ça c'est certain. Et il faut se méfier parfois de ça, hein, parce qu'on a prouvé que n'importe quel individu peut se comporter en bourreau, en ne faisant qu'obéir à des signes de ce type. Hein. Il suffit qu'il soit environné par un théâtre particulier auquel il fait crédit, en l'espèce le décorum médical, pour qu'il se sente exonéré de sa propre responsabilité et fasse taire la voix intérieure de sa conscience. Là, je pense aux expériences de Stanley Milgram, consigné dans son livre « Soumission à l'autorité », et dont Henri Verneuil a tiré une séquence de son film « I-Comicar ». Hein. Donc, un médecin ou quelqu'un vêtu d'une blouse blanche peut, vis-à-vis d'un cobaye, en quelque sorte, dont on veut tester la soumission à l'autorité, peut le transformer en bourreau. Il doit envoyer des chocs électriques.
Ouais.
Je ne sais pas si
vous... Oui, je vois très bien maintenant quand vous faites allusion. Absolument. Voilà. Oui, juste par le fait qu'il a une blouse blanche.
Voilà, c'est
la blouse, signe
voilà,
et la blouse
le
blanche,
signe.
C'est autorité.
Et la projection qu'on fait sur lui.
Sur le signe.
Ah, voilà.
L'homme enlèverait le signe et la blouse blanche, il n'y aurait pas le même impact.
Ah oui, là vous avez absolument raison. Alors on recrute les cobayes justement par petites annonces. Alors figurez-vous que l'argent qu'on leur donne est moins important que l'impression qu'ils ont de servir la science, vous voyez, hein. Donc c'est pas tellement une question d'argent, mais c'est une question de concourir au savoir. Mmh. Alors on envoie des chocs électriques qui sont bien sûr simulés, hein, mais le véritable objet d'expérience, c'est celui qui est censé envoyer ces chocs. Mmh. Hein. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut se déresponsabiliser quand on dit qu'on a subi justement l'aura de tout ce théâtre. Je pense, vous voyez, à la façon dont Eichmann s'est défendu, hein, c'est le bourreau des camps de concentration connus, hein, il a dit qu'il n'avait fait qu'exécuter les ordres, parce que il projetait sur ses supérieurs une espèce de présomption justement d'autorité voilà, il projetait, voilà. Ouais. Et Hannah Arendt, dans son livre Eichmann à Jérusalem, a parlé justement de la banalité du mal, c'est-à-dire pour Hannah Arendt, Eichmann, c'était un petit fonctionnaire zélé qui exécutait complètement les ordres, qui manquait de réflexion, qui était prisonnier seulement de ses projections, vous voyez, il manquait de réflexion personnelle, et beaucoup pourraient, dans la même situation, se comporter de la même façon. Mmh. Alors Hannah Arendt s'est attirée les foudres de la communauté juive, hein, parce que cette communauté voulait que Eichmann fût un monstre inhumain, hein. Mais non, elle a parlé de la banalité du mal, hein. Mais attention, la banalité du mal n'est pas la banalisation du mal. Comprendre, ce n'est pas excuser, c'est deux choses tout à fait différentes. Mais là, Hannah Arendt, justement, c'est attirer l'hostilité de ses compatriotes, je sais pas comment dire, aux co-religionnaires, etc.
Sur FM Plus 91 FM avec Michel Théron, nous lisons Sur les chemins de la sagesse et nous évoquons ce gros sujet des projections, de ce qui fait que ce que nous projetons et pourquoi est-ce qu'on y est finalement soumis à cette projection et quelle autorité on donne à certains signes qui font que, eh bien, on n'a plus du tout cette réflexion, cette introspection qui nous permettrait de réagir peut-être mieux qu'avec une simple projection.
Tout à fait. Et donc, j'ai cité la phrase de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, qui nous dit, à propos des tyrans, hein, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Hein, voyez. Donc, cela peut être pris littéralement même, car on peut instrumentaliser les projections. Une mise en scène théâtrale peut les favoriser. Par exemple, la petite taille de l'observateur, hein, sa position dans l'espace, va induire du respect et aussi de l'appréhension, de la peur dans son esprit, parce que l'autre est vu de bas en haut. Alors, je répète mon réflexe photographique, hein. Il y a deux façons de photographier un sujet. Soit vous le photographiez en plongée, c'est-à-dire de haut en bas, hein, soit en contre-plongée de bas en haut. Et alors, pour amplifier la grandeur du sujet, il faut se mettre à plat ventre ou à genoux et photographier en contre-plongée pour grandir la personne, hein, tandis qu'on l'écrase au contraire quand on est en hauteur, et ça les gens ne le savent pas assez. Donc pensons par exemple à l'estrade du juge au tribunal, hein, il est dans une position élevée et ça permet la projection, ou l'estrade du professeur dans sa classe, hein. Alors il faudrait, si les élèves, vous voyez Guylaine, avaient l'habitude de monter sur les tables durable. Je veux dire, non pas comme ils le font aujourd'hui dans certains collèges difficiles, spontanément.
Cinéma, hein.
Mais si on leur demandait de monter sur les tables pour leur ouvrir l'esprit, comme dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, hein, le professeur Keating leur dit, montez sur les tables. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de leur dire de monter. Bon. Eh bien, à ce moment-là, ils seraient habitués, les élèves, à ce qu'on appelle le perspectivisme des visions. Vous voyez, hein, la vision est telle ou telle parce que nous sommes situés de telle ou telle façon par rapport à notre sujet. Donc toutes ces projections alimentent la soumission et la crainte, et elles peuvent être facilement manipulées, être mises au service de celui qui recherche le pouvoir. Par exemple, il y a une pièce de Jules Romain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Knock, que vous connaissez tous sûrement, ne serait-ce que par le film où Louis Jouvet jouait ce médecin, Knock. Hein. Eh bien, le médecin a servi tout un canton en jouant sur les peurs des habitants. Il leur persuade que tout bien portant est un malade qui s'ignore, vous voyez. Il leur dit aussi, vous savez, la santé c'est un état précaire qui ne présage rien de bon. Hein. Mmh. Donc, alors, les gens, au début, ils font les fieros, par exemple, il y a dans le film le gros paysan comme ça qui arrive faire le fier, et puis il en sort complètement abattu. Parce que Knock a instillé dans son esprit l'idée qu'il était malade. Et à la fin, tout le canton se met au lit, prend la fièvre à la même heure, etc. Hein. Ça peut exister, si vous voulez, on peut asservir hein, toute une communauté en jouant sur sa peur. Dans le cas précis, c'est l'hypocondrie. L'hypocondriaque, c'est celui qui est malade, qui a tout. Hein. Par exemple, il va sur Internet, il regarde partout, il a mal à la tête, paf, il va voir, j'ai une tumeur au cerveau, vous voyez, des choses comme ça. Alors, comme tout être est hypocondriaque, eh bien, le médecin, si cette soif de pouvoir, hein, peut asservir justement un grand nombre de gens. Alors là, j'ai ajouté quelque chose dans la prochaine édition. Je pense que j'y tiens quand même. Beaucoup de religions font la même chose. Hein, mais alors vous avez raison, Guylaine, de dire qu'aujourd'hui des choses changent. Hein, vous l'aviez dit la dernière fois. Hein. Mais au départ, les religions naissent de la crainte, de la peur que l'on éprouve devant un monde qu'on ne peut pas comprendre rationnellement. Hein. Et donc, elles naissent des projections que l'on fait sur le monde pour justifier cette crainte. Lucrèce, un grand sage de l'Antiquité, nous dit c'est la peur qui la première a créé les dieux dans le monde. Hein. En latin, primus in orbe timor fecit deos. Hein. Alors ensuite, hélas, les ministres des religions prennent le relais. Ils sont les mandataires de cette puissance. Je suis content de vous voir sourire et hocher de la tête parce que j'avais un peu peur, si vous voulez, de parler de ça. Mais il est vrai que certains ministres, justement, basent leur construction justement sur cette délégation, ce virement de crédit que l'on fait comme quand on fait un chèque, un virement de crédit, une fiducia, une confiance. Fiducia, c'est un mot latin qui veut dire une confiance. Hein. Et en fait, ces constructions impressionnantes n'ont de pouvoir sur nous que celui que nous leur donnons, finalement. Hein. Donc Voltaire le disait, hein, nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense, notre crédulité fait toute leur science. Alors, souvent, cela sert seulement la soif de pouvoir. Alors voilà, j'espère que je ne choque aucun et que FM Plus est libéral. FM Plus est libéral. Mais c'est sûr qu'il y a eu toute une pédagogie de la peur. Hein, au monde chrétien, par exemple, dont s'est occupé Jean Delumeau, hein, la peur en Occident, un historien sur la peur en Occident. Bon, moi je me souviens encore au catéchisme, je viens d'un milieu catholique, mais il y avait toujours la peur. Hein. Nous disait, songe que Dieu te voit. Hein,
dans d'autres religions aussi, ça fonctionne encore.
Dans d'autres confessions aussi, peut-être. Hein. Oui, voilà, la peur. Hein. Dieu te voit même quand tu es au cabinet. Vous voyez, bon, donc Dieu te voit, voilà. Je crois qu'un mystique espagnol le disait, mira que te mira Dios, mira que te está mirando. Songe que Dieu te voit, qu'il est en train de te regarder. Alors, c'est un peu comme une caméra de surveillance, en quelque sorte. Et il faut se méfier de cela.
Donc ça, c'est vraiment l'aspect négatif des projections,
oui,
parce qu'elles nous desservent.
Oui, absolument.
Elle dessert l'individu.
Et elle, comment dire, elle nous paralyse. Non, j'écris un livre aussi chez BOD, le même éditeur, qui s'appelle Peur de son ombre. Le sous-titre, c'est La lumière est en nous, pour dire justement, j'ai écrit après les attentats terroristes, que cette puissance extérieure transcendante qui nous fait peur, finalement, est une affaire de projection intérieure. Vous voyez, bon, donc c'est sûr que la majorité, encore, il faut bien le reconnaître, pense à ce regard de Dieu inquisiteur posé sur sur nous. Bon, on peut concevoir Dieu ou le divin autrement, comme une lumière intérieure, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il faudrait que le sage fasse une révolution copernicienne. Qu'est-ce que ça veut dire, la révolution copernicienne ? Avant Copernic et Galilée, ensuite, on pensait que le soleil tournait autour de la Terre. Puis on a compris et vérifié que c'est l'inverse. Eh bien, de même, on a pu penser d'abord que l'esprit humain se soumettait aux choses elles-mêmes, qu'il ne faisait que les refléter. Et puis on a compris, à partir du philosophe Kant, par exemple, que l'esprit construisait son propre monde, que le monde n'existait qu'à partir de la mise en forme et des élaborations, justement, opérées par l'esprit lui-même. Et alors, en transposant ces considérations, on peut dire que les hommes peuvent voir que l'emprise qu'exerce sur eux l'autorité et le pouvoir vient non pas de la perception d'une supériorité véritable, mais simplement de leur soumission vis-à-vis de ces derniers, fondée sur leur peur. Alors ces peurs sont en partie naturelles, constitutives de leur psyché, de leur âme, mais aussi elles sont, sinon totalement inculquées, mais au moins développées par l'éducation qu'ils reçoivent. J'aime beaucoup le titre d'une pièce de Rainer Werner Fassbinder, un grand dramaturge allemand, qui s'appelle, ce titre c'est « La peur dévore l'âme ». Vous voyez, la peur, angst, dévore l'âme. Alors est-ce qu'on peut, je vous pose la question Guylaine, est-ce qu'on peut détruire toutes ces projections ? Par exemple, un homme a essayé de le faire, c'est Diogène. Diogène, c'était un cynique. Cynique vient du mot latin, du mot grec, qui veut dire le chien, kuon, kunos, que vous avez dans art cynégétique, l'art de la chasse, etc. Bon. Donc, Diogène s'est permis de mépriser Alexandre. Diogène vivait dans, on dit dans un tonneau, non, dans une grande jarre, Bon. Et, Alexandre est venu le voir et lui dit, voyons Diogène, dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Eh bien, Diogène, répondu, Alexandre, tu me fais de l'ombre, ôte-toi de mon soleil. Oui. Voyez. Alors, il avait détruit toutes les projections. Alors, est-ce que c'est possible? Je sais pas.
Sûrement pas.
Ah voilà, sûrement pas.
Sûrement pas. Alors, ce serait trop simple.
Ce serait trop simple.
On se réserve ça pour la fois prochaine.
Voilà, c'est une. Voilà. Alors, on ménage le suspense.
C'est ça.
Ces projections que nous venons de critiquer, comment peut-on parfois, au moins partiellement, les réhabiliter?
Absolument. Bonne semaine, Michel.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.